Depuis 2015, chaque premier jeudi de novembre est consacré à la lutte contre le harcèlement scolaire. Phénomène reconnu comme dangereux, il reste cependant mal connu et encore trop peu d'établissements s'emparent collectivement du problème. Souvent un peu désemparés, les équipes éducatives peinent à le traiter efficacement. Comment en détecter les signaux faibles? Pourquoi est-ce si difficile à identifier et à endiguer? Que se joue-t-il entre les différents acteurs de l'intimidation? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
Bien que le concept soit assez récent en France, le harcèlement est étudié à l'étranger depuis les années 70 et le phénomène semble avoir toujours existé. Cependant, le harcèlement se distingue de la seule violence ou agression. Il y a harcèlement quand une personne subit de manière répétitive des actes négatifs qui entraînent un malaise. Ces actes négatifs peuvent être des agressions physiques ou verbales, comme les coups et les menaces, mais peuvent aussi se faire sans mots ni contact par l'ostracisation ou des gestes obscènes. Le cœur du harcèlement est dans la fréquence des agressions répétées et dans la nature de ces actes qui sont volontairement nuisibles.
J'aime pourtant tout leur beau monde, mais leur monde ne m'aime pas, c'est comme ça. Et souvent j'ai de la peine quand j'entends tout ce qu'ils disent derrière moi.
Et surtout, le harcèlement n'est jamais un rapport d'égalité. Il y a un rapport de force où la cible se retrouve en position de vulnérabilité. C'est pourquoi les victimes peinent à faire cesser le harcèlement sans soutien et aide des adultes, car il y a un rapport de domination qui les prive de la capacité à se défendre entre égaux. Selon la dernière enquête de 2023 sur presque 18 000 élèves, plus de 15% des élèves sont victimes d'actes qui relèvent du harcèlement, et c'est dans les écoles et les collèges que les cas sont les plus nombreux. Les auteurs n'ont pas de profil type. Le harcèlement concerne toutes les classes sociales, tous les genres. Il rejoue des discriminations bien connues, sexisme, homophobie, grossophobie, racisme.
Moi, le harcèlement, je l'appelle l'oppression conformiste. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui se passe, d'abord, il ne faut pas l'oublier, en groupe, avec un leader éventuellement, mais en groupe, où il y a un refus de la différence.
Cependant, cette idée de refus de la différence peut être dangereuse, car elle peut faire porter la responsabilité aux victimes. Il ou elle était différent, et cela motiverait le comportement des autres.
Alors pourquoi est-ce qu'on continue à dire qu'un garçon ou une fille a été harcelé? Parce que... Pourquoi est-ce qu'on va chercher des motifs au harcèlement? Mais je suis désolé, aller chercher des motifs au harcèlement, c'est se placer sur le terrain des intimidateurs.
Le mot harcèlement lui-même ne fait pas consensus. Certains, comme Jean-Pierre Bellon, que l'on vient d'entendre, préfèrent le mot intimidation, qui permet de distinguer les comportements propres aux enfants et aux adolescents de celui des adultes. En revanche, en anglais, on peut faire la distinction entre deux termes. Le bullying... et le mobbing. Le bullying désigne la violence entre une brute, un tyran, c'est la traduction, et sa cible. Cela peut être du racket, des menaces, des insultes répétées. Le mobbing, lui, inclut l'effet de groupe, de foule. Il désigne des assauts collectifs et concertés pour nuire à la cible. Bien souvent, le harcèlement scolaire relève davantage du mobbing, où tout un groupe s'acharne à maltraiter une victime qui se retrouve très isolée et qui peine à trouver du soutien. Ainsi, de nombreux enfants très différents peuvent participer à l'intimidation par peur d'être exclus ou d'être la prochaine cible. C'est donc sur les dynamiques et normes des collectifs que l'attention doit se concentrer, car le harcèlement est souvent une stratégie consciente pour obtenir du pouvoir et un statut de domination, nous dit Benoît Galland. La question du groupe devient alors d'autant plus problématique lorsque le harcèlement se poursuit en ligne. L'anonymat, mais surtout la distance et l'absence physique de la victime, laisse libre cours à une parole qui fait l'économie de l'empathie et de la réflexion. Le cyberharcèlement est alors le prolongement du harcèlement subi à l'école. Plus de 80% des élèves qui harcèlent en ligne sont connus des victimes. Ce n'est pas un phénomène déconnecté des relations dites réelles, comme le précise Éric Debarbieux.
Très souvent, c'est vrai que les jeunes qui sont harcelés sur Internet sont aussi harcelés dans la cour de récréation. Si vous voulez, c'est une arme de plus à destination des harceleurs.
En revanche, le cyberharcèlement a quelques spécificités. Les victimes ont peu de répit et les actes échappent alors complètement à l'attention des adultes. Le harcèlement en présentiel a aussi lieu dans les endroits où la présence adulte est plus diluée, la cour, les toilettes, les vestiaires. Les réseaux sociaux offrent alors un espace caché, privilégié. « En outre, les réseaux sociaux ont rendu possible une nouvelle forme de harcèlement, la révélation d'un contenu privé, intime, à des personnes qui n'en sont pas destinataires. On pense aux photos et vidéos, mais ce sont aussi des messages, des confidences qui sont révélées. Bellon et Gardette nomment cela le sexting.
Le sexting, c'est le cumul de trois blessures. D'abord, la trahison de celui en qui on avait placé sa confiance. Ensuite, la honte d'être exhibé aux yeux de tous. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a ensuite les insultes, les brimades des pairs. Imagine-t-on dans quelle solitude peuvent se trouver les victimes du sexting non consenti.
Les dégâts causés sont alors très graves, d'autant plus que cela concerne le corps, l'intimité, la sexualité. Les enfants sont alors tétanisés à l'idée d'en parler avec leurs parents. La culpabilisation des victimes dans ces situations peut alors être très dangereuse, comme le rappelle Marie Cartier.
Il faut absolument se montrer de manière inconditionnelle de son côté. Il ne faut jamais incriminer sa maladresse. Jamais dire « Oh, il aurait peut-être... »
Voilà, faute, exactement.
Il faut pouvoir lui dire toujours « Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu n'as aucun tort. Et nous sommes entièrement de ton côté. » Ceux qui ont des torts, une faute sur le plan moral ou un tort sur le plan pénal d'ailleurs, parce que tout de même la loi là existe, hein, ce sont ceux qui ont partagé et divulgué la photo. Toi, tu n'y es pour rien.
Beaucoup d'élèves avouent ne pas parler à leurs parents par peur de perdre l'accès aux espaces digitaux et parce qu'ils ont peu confiance en leur capacité à gérer la situation. Cela vaut également pour les équipes éducatives qui sont très peu formées à reconnaître et traiter des situations de harcèlement, d'autant plus si elles ont lieu en ligne. Souvent, la crainte des victimes est que la situation s'aggrave après l'intervention des adultes par maladresse et méconnaissance des dynamiques de groupe. Et pourtant, on le sait, la meilleure prévention, c'est le traitement, dit Éric de Barbieux. Plus les adultes réagissent en condamnant les insultes, moqueries et actes de violence, moins les élèves se sentent puissants et légitimes à installer une situation de domination. Cependant, si la réaction des adultes est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Écoutons à nouveau Éric de Barbieux à ce sujet.
Quand on a 11-12 ans, et encore plus après, on peut avoir des parents extraordinaires. On peut avoir des profs super. N'avoir apparemment aucun problème avec les adultes. Et ces adultes, ils sont impuissants pour m'aider. Pourquoi ? Parce que c'est le point de vue des copains qui compte. Parce que c'est ma réputation dans mon établissement avec mon groupe. Et donc, de ce côté-là, on a vraiment besoin que les témoins bougent.
Ainsi, la prévention du harcèlement vise à transformer les normes pour inviter les témoins passifs qui ne disent rien et les témoins actifs qui participent à devenir des soutiens bienveillants qui refusent et condamnent les agressions. Les programmes de prévention et d'intervention qui fonctionnent le mieux vise à restaurer l'empathie envers les victimes tant auprès des élèves qui harcèlent qu'auprès des témoins qui permettent au harcèlement de continuer. Le programme phare, que le ministère veut étendre à tous les établissements, reprend la méthode de la préoccupation partagée inventée par Anatole Picas, un psychologue suédois. Écoutons à nouveau Marie Cartier présenter cette méthode.
En fait, elle consiste, de façon très concrète, à mener des entretiens individuels avec les élèves qui ont pris part aux brimades. Pour en fait... briser l'effet de groupe. Le harcèlement scolaire, c'est toujours un effet de groupe, même lorsque le groupe est invisible. Et donc, ces entretiens individuels, avec les élèves qui ont pris part aux brimades, ou même d'autres autour, peu importe, des témoins, après tout, ils prennent part finalement aux choses en ne faisant rien, va permettre de réindividualiser ces élèves, de les arracher à l'effet de groupe, de les tirer vers des comportements plus moraux, alors que le groupe va les tirer vers le bas, de façon tout à fait naturelle. Et on les réindividualise, on les responsabilise, en leur faisant partager notre préoccupation pour l'élève cible de brimade, et en les amenant finalement à trouver eux-mêmes des solutions à la situation qu'ils ont créée.
Le but n'est alors pas de condamner les auteurs, mais dans une perspective de justice réparatrice, qu'ils se rendent compte eux-mêmes du mal fait en faisant le pari que leur empathie est inhibée, mais pas inexistante. En outre, il est important de faire connaître aux élèves leurs droits. Le harcèlement est un délit qui relève de la justice pénale. Et depuis 2019, le Code de l'éducation comporte le droit à vivre une scolarité sans harcèlement. Les chefs d'établissement doivent faire connaître au procureur de la République toute contravention à la loi, dont le harcèlement fait partie. Cependant, les procédures pénales sont longues et c'est alors aux établissements que revient aussi la responsabilité de mettre en œuvre des actions nécessaires à la sécurité des victimes.
C'est pas harcèlement à l'école, bonjour.
Les équipes éducatives ont toutes des référents académiques formés qui peuvent être contactés par téléphone.
Élèves, parents, professionnels, en cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018.
D'ailleurs, même en cas de cyberharcèlement, les sanctions disciplinaires doivent constituer une réponse rapide permettant de lutter efficacement contre le sentiment d'impunité. Dès que l'équipe connaît l'existence des faits, elle doit légalement intervenir s'il y a atteinte à la dignité et à la sécurité des élèves, même s'il s'agit d'échanges de vidéos sur les réseaux sociaux. Pour conclure, on voit bien que l'intimidation est un rapport de force et d'oppression dont les premiers signes sont les petites violences, les petites agressions auxquelles on doit être rendu attentif. Il s'agit de se libérer du préjugé que cela forge le caractère, mais aussi qu'il faudrait apprendre à s'endurcir et prendre confiance en soi.
La guerre des boutons. Notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons dans ce qu'elle eut de franc et d'héroïque.
Ce sont autant de discours qui nous empêchent d'être en empathie avec ce qu'endurent les victimes et qui nient le piège dans lequel elles sont prises. On voit bien que nous ne sommes pas du tout impuissants face au harcèlement scolaire. Nous pouvons changer encore beaucoup dans nos pratiques, car certaines sont vertueuses et ont fait leurs preuves, bien qu'elles soient encore peu étendues en France. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.